Merci, merci beaucoup Laurence pour cet éclairage. Alors on va enchaîner avec la première table ronde donc animée par Véronique. Je vais donc demander de nous rejoindre à la tribune. Enfin moi je vais vous quitter juste après. Hélène Bidard, donc adjointe à la maire de Paris. Claire Quidet qui est la présidente du Mouvement du Nid. Alexia Fafara, qui est responsable du plaidoyer au lobby européen des femmes. Et puis, nous aurons en direct de New York Taïna Bien-Aimé, qui est directrice exécutive de la Coalition internationale contre le trafic d'humains. Merci.
Bonjour.
Recording
mesdames.
In progress.
On fait les ajustements. Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette mission de confiance, Céline. Pardon, je parle un peu plus fort. Donc, je suis Véronique Genel et je suis donc déléguée de Elles aussi, l'association qui milite pour la parité dans les instances élues, ici à La Clé. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui d'animer cette table ronde qui a le thème « Les offensives en France et dans le monde contre l'abolition de la prostitution et les abolitionnistes ». Alors, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation. Et ça y est, nous sommes en liaison. Ça va aller ? Merci beaucoup. Alors, l'idée, c'est donc que chacune... Dans votre domaine, eh bien, vous puissiez expliquer d'abord l'état des lieux aujourd'hui dans notre monde, en France d'abord, et puis plus, et en prenant de la distance dans le monde, et chacune avec sa position dans son association, comment on vit cette difficulté de lutter contre la prostitution actuellement. Alors, je vais interroger d'abord Madame Hélène Bidard. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons eu l'occasion de se rencontrer justement pour parler de parité récemment. Et donc, eh bien, vous, en tant qu'adjointe en mairie de Paris, en charge à l'égalité femmes-hommes, de la jeunesse et de l'éducation populaire, en quoi consiste votre action ? Et pouvez-vous nous faire un peu un état des lieux ? Et quel message souhaiteriez-vous faire passer aujourd'hui lors de cette table ronde ?
Merci beaucoup. D'abord, je veux remercier La Clé et toutes les associations féministes présentes, les organisatrices, pour cette réunion, je crois, très importante, qui correspond à un besoin réel. Et puis, je veux le dire d'entrée de jeu aussi, soyez assurés de ma disponibilité pour la task force, qui est absolument nécessaire, dont nous avons besoin, puisqu'effectivement, des adversaires hétéroclites, mais capables de s'organiser entre eux, lorsqu'il faut s'entendre sur, contre les droits des femmes, s'oppose à nous. Et donc, il est très important, je pense, de prendre de telles initiatives. Sur la loi de 2016, moi, j'étais élue adjointe à la maire de Paris en 2014, donc avant la loi. Du coup, j'ai vu les institutions, la manière dont elles s'organisaient peu avant la loi, avec beaucoup d'associations, en réalité, les associations féministes qui accompagnent les personnes en situation de prostitution sont les mêmes avant la loi et après la loi. Elles militaient déjà beaucoup, elles étaient déjà très engagées et avaient déjà des discussions avec les professionnels des différents services publics, de la ville de Paris, de la préfecture de police, de la préfecture. Je veux redire quand même que je me rappelle très bien, j'étais plutôt dans une position de militante, puisque nous n'avions pas de compétences avec la ville de Paris, à part donc de subventionner en dehors de nos compétences des associations. Je me rappelle très bien de la dureté des débats, d'avoir assisté aux débats à l'Assemblée nationale, aussi au Sénat. Je me rappelle de ce qu'ont subi Laurence Rossignol, Maud Olivier, d'avoir fait quelques manifestations, d'ailleurs avec certaines d'entre vous très probablement, avec Maya Surdut devant les assemblées, le Sénat, où on nous lançait des bacs de faux sang, etc. Donc de toute cette violence-là. Si cette violence-là, on ne l'a plus retrouvée, ou en tout cas moins dans la rue et dans cette expression-là, pour autant, bah, ces personnes sont restées, elles existent, voilà, toutes celles qui se sont mobilisées contre la loi avant 2016, elles existent toujours, elles sont toujours militantes, et du coup, elles continuent leur militantisme contre la loi d'une autre manière, notamment en s'en prenant aux élus locaux. Alors ça se voit beaucoup à Paris, enfin, j'espère que vous le voyez, que tout le monde le sait, ça se voit beaucoup à Paris, mais ça, c'est aussi le cas à Marseille par exemple, ça s'est déporté, si vous voulez, ce militantisme-là s'est beaucoup déporté sur les élus locaux. Et donc pour moi c'est intéressant de vous en parler. Ce qui est amusant, enfin j'aurais des anecdotes à raconter mais je ne vais pas être très longue, mais Laurence Rossignol le disait sur comment une fois qu'on a voté la loi, elle ne s'applique pas tout de suite. Et donc si nous étions très contents de la loi quand elle a été votée en 2016, je me rappelle des coordinations prostitution en 2017 encore avec le préfet de police, les deux. Où on se réunissait avec la ville de Paris et où le préfet se tournait vers le préfet de police en lui disant « Alors, combien d'arrestations de personnes prostituées ?»« Ah non, monsieur le préfet, attendez, on va reprendre les choses. » C'est-à-dire que les préfets eux-mêmes n'avaient pas intégré la loi du tout et demandaient à la BRP combien d'arrestations de personnes prostituées. La BRP était fort ennuyée. Mais il a fallu beaucoup de temps pour qu'il y ait un changement de culture professionnelle, et notamment, j'ai dit BRP, donc la Brigade de répression du proxénétisme, ça a été des interventions que j'ai faites de manière incessante dans les cadres qui ont été créés grâce à la loi. On avait des cadres existants de discussion, préfecture de police, mairie, association, puisque tout le monde était conscient de la gravité de la situation et qu'il fallait se coordonner. Mais la loi a créé un cadre légal dans les coordinations prostitution. On doit se réunir ensemble et travailler ensemble. Et du coup, il y a des discussions qu'on a pu avoir au travers de ces réunions sur la nécessité de former les professionnels qui accueillent les femmes en situation de prostitution. Et moi, c'est un sujet que je porte encore dans les comités locaux, je rentre dans des détails, mais les comités locaux d'aide aux victimes. Par exemple, vous avez des comités locaux d'aide aux victimes, mais où on ne parle jamais prostitution. Parce que l'État ne considère pas, dans la déclinaison locale, que les victimes en situation de prostitution sont des victimes. Et donc, on n'en parle pas dans les claves. Moi, je suis beaucoup intervenue pour que la brigade de répression du proxénétisme se forme à l'accueil des victimes. Forcément, ils accueillaient les mêmes personnes en situation de prostitution, mais avant, ils les pensaient comme des délinquantes. Et ils vous le disaient en réunion, c'est tellement plus facile de faire des fichiers. De faire des fichiers des personnes en situation de prostitution, c'est leur grande... c'était tellement mieux avec celles à qui on donnait des OQTF pour pouvoir les renvoyer dans leur pays étranger, ou pas, mais en tout cas, on leur donnait des OQTF et on les fichait. Et ça permet de faire du chiffre. Et de faire du chiffre, même quand on n'a pas beaucoup de moyens en termes de personnel. Alors que se former pour accueillir des victimes savoir les accompagner, les orienter vers les associations, on leur demande de faire du coup beaucoup plus, sans leur donner de moyens supplémentaires, au contraire. Et on leur demande de changer complètement de prisme, de mentalité sur les personnes en situation de prostitution, de les accueillir comme on demande à la brigade des familles d'accueillir une personne qui vient porter plainte pour violence conjugale. On leur demande de faire le même travail. Et ça, pour eux, mais c'est un monde, c'est énorme quoi, de changement. Et c'est une incompréhension donc, que j'ai vue jusqu'au préfet, et il n'y avait bien que le procureur qui avait bien saisi le truc tout de suite, mais qui était conscient du temps qu'il faudrait pour changer ses pratiques professionnelles. Toujours est-il que, du coup, quand la loi a été gagnée, j'ai pu constater les effets positifs sur les premières concernées quasi immédiatement, du coup. Plus de fichage, plus d'OQTF. Donc ça, c'est énorme. Et à Paris, fin 2022, 229 femmes, 20 hommes, 3 personnes trans avaient pu bénéficier des parcours de sortie. Et les chiffres sont au-dessus de ceux qui ont été donnés tout à l'heure. C'est 99,2% qui sont étrangères hors de l'UE. Donc voilà, c'est clair, les parcours de sortie, c'est 99% qui sont étrangères hors de l'UE. Il y en a 93% de ces personnes qui sont dans les parcours de sortie qui sont allées au bout du parcours et qui se sont insérées professionnellement et avec 50% de CDI. Ce qui, quand même, dans un contexte d'emploi qu'on connaît, est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est une réinsertion réussie profondément, dans le sens où il y a un travail à la clé. Ça veut dire qu'il y a une émancipation financière qui est possible. Mais bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, parce que je pense que Claire pourra parler des parcours de sortie. Et puis, donc, l'abrogation du délit de racolage, ça a conduit clairement à un changement de culture. Dans la prise en charge des personnes, changement de culture qui n'a pas été immédiat, mais où il a fallu beaucoup pousser pour faire connaître la loi aux professionnels de la police et de la justice. Et c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à devoir, en tant qu'élus locaux, devoir faire ça, mais il a fallu beaucoup pousser sur ça. Ce changement, ça nous a donné, à nous, aussi un cadre plus bienveillant. Pour soutenir les associations de terrain. Pour vous donner un peu une idée, la délégation aux droits des femmes à Paris, c'est 341 000 euros qui sont financés pour les associations qui accompagnent les femmes victimes de prostitution. Ça ne compte pas les centres de santé, les lieux d'hébergement, etc. C'est juste les subventions, c'est donc 341 000 euros. Et puis, on mène également des actions plus sur des projets de prévention auprès des jeunes avec un projet qu'on appelle Collège pour l'égalité sur l'enjeu de la non-marchandisation des corps qui pour moi est le sujet sur lequel il faut avancer, celui qui a été le plus laissé de côté et celui sur lequel il faut le plus avancer. C'est sur cet enjeu de discuter avec les jeunes, d'expliquer aux jeunes la non-marchandisation des corps, que ce soit pour la prostitution, pour la pornographie ou pour la GPA, en effet. Et cet enjeu, il est extrêmement prégnant. J'avais prévu d'en parler après, mais j'en parle maintenant. Peut-être vous avez vu, mais les Instagrammeuses, les influenceuses qui utilisent les réseaux sociaux pour se mettre en scène, qui revendiquent de se prostituer, elles sont très présentes auprès des jeunes. Elles portent une idéologie très forte chez les jeunes. Elles sont reçues ensuite chez Hanouna. Et là, moi, ce que j'ai vu dernièrement, elles ont été reçues à Cannes. Elles ont eu des chambres d'hôtel à Cannes. Et c'est quoi leur métier ? Influenceuse pro-prostitution, pro-pornographie. Et elles ont un impact extrêmement fort en portant une idéologie de... sans rire, de mon corps, mon droit... mes choix, mais en revendiquant le libéralisme jusqu'au bout, j'ai le droit de tout vendre, de tout acheter, y compris mon corps. Cette idéologie libérale jusqu'au boutiste, elle est très présente sur les réseaux sociaux, dans les médias que regardent les jeunes, sur Twitch, etc. Et donc pour moi, le gros enjeu à développer, c'est cet enjeu d'éducation à la non-marchandisation de son corps et des limites qu'il faut mettre pour se respecter et respecter l'autre, et donc particulièrement chez les jeunes. Ensuite, je pense très sincèrement, comme élus locaux, je me concentre sur ça, on a un rôle important à jouer pour défendre la loi et porter une offensive politique pour qu'il soit effectivement appliqué. On interpelle, je l'ai dit pour les formations, mais on interpelle l'État à tous les échelons et quels que soient d'ailleurs les ministères pour affronter les difficultés d'application de la loi. Le fait de pénaliser le client, de mettre des amendes au client, de faire connaître la loi auprès des clients, l'éducation à la non-marchandisation du corps, je le disais, dans l'éducation nationale. L'accompagnement au changement de culture dans les rapports donc police-personnes prostituées. La question des moyens alloués au PSP et de leur mise en œuvre. Il y a tout un enjeu donc sur développer des politiques publiques autour des points les moins développés dans la loi, donc les autres lieux. L'enjeu donc des salons de massage très particuliers pour les services de police, de ce qu'ils nous disent, puisque vous n'êtes pas dans la rue, vous ne pouvez pas faire du flagrant délit en rentrant dans le salon de massage. Donc il y a cet enjeu-là. Le lien avec la pornographie et donc la prostitution dite 2.0, la cyberprostitution. L'offensive contre l'abolition, les abolitionnistes, je voudrais en parler juste en trois exemples pour ne pas être très longue. Donc la violence, elle s'est déplacée aussi contre les abolitionnistes sur le cyber, donc les cyberviolences. Moi, j'en ai fait les frais de multiples fois, mais particulièrement sur une campagne municipale où je relayais une campagne municipale et j'ai mis hashtag abolition. Et en fait, juste le fait d'avoir mis abolition est un élément déclencheur pour être victime de cyberviolence. Et donc, j'ai été accusée d'être responsable des décès des personnes trans prostituées à Paris, responsable de l'épidémie du VIH pour les plus précaires, putophobe, transphobe. Ils ont fait des visuels avec ma photo en disant que j'étais complice du VIH. Voilà. Des campagnes qui sont en ligne. Finalement, quand vous n'êtes pas directement concerné, vous ne les voyez pas forcément. Tout de même, ce qui est extrêmement fort, moi, ce qui m'a marqué particulièrement sur les campagnes de cyberviolence, parce qu'on peut en effet toujours éteindre son téléphone, même si ça ne fait pas disparaître les campagnes, c'est qu'elle s'est déclinée physiquement. C'est-à-dire qu'on m'a suivi à la fête de l'humain, en manif. Donc, j'ai dû avoir des gardes du corps face à ça. C'était « Ah, c'est la complice du VIH, c'est la responsable du VIH ». Donc elle ne peut pas aller dans le marais sans dire qu'elle est responsable du VIH. Donc c'est ça les campagnes de dénigrement qui utilisent Internet d'abord et qui en fait vont vraiment avoir des conséquences après sur la vie et sur le fait qu'on renonce à faire des déplacements, etc. Ce qui m'avait frappé, c'est à quel point c'est le terme abolition qui a déclenché ça, d'abord. Et ensuite, c'est aller plus loin que dans les dénigrements et les campagnes de cyberharcèlement que j'ai pu subir de la part du RN. Excusez du peu. Mais en fait, quand le RN vous pourchasse, pour moi, c'est aller moins loin dans ma situation que... et pourtant, j'ai été cyberharcelée, etc. Que là, avec une campagne où vous dites... à partir du moment où on se dit abolitionniste. Je n'ai vu ça sur aucun autre sujet. J'en ai parlé aussi avec Maud Olivier, qui a, elle aussi, en tant que rapporteure de la loi, disait qu'il n'y avait que sur cette loi où elle avait subi autant de violences. Aucune autre loi n'a pu déclencher autant de violences et de harcèlement sur des élus qui ont la spécificité aussi d'être féministes. C'est aussi, je pense, un facteur aggravant de leur point de vue. Ce que je veux souligner par rapport à ça, c'est que ça a un impact. On a fait face à l'image d'ailleurs des activités qu'elle promeut, des personnes qui sont violentes, qui vont utiliser donc des pratiques d'intimidation, des menaces, jusqu'à remettre en cause votre intégrité physique. Et c'est à prendre en compte parce que je pense que beaucoup de féministes ne se déclarent pas abolitionnistes, ne peuvent plus se déclarer abolitionnistes, ne peuvent pas assumer de se reprendre une vague de cyberharcèlement. D'ailleurs, j'en ai parlé clairement avec des féministes qui ont déjà été cyberharcelées une fois et qui disent « Non, moi, je ne le fais plus. Je ne peux plus. Personnellement, je ne peux pas resubir une telle violence. » j'en connais beaucoup et ça compte, en fait, dans... C'est-à-dire que le fait d'intimider fonctionne aujourd'hui et fonctionne jusque sur les élus locaux. qui sont censés aider à la mise en œuvre de la loi. Donc je pense que c'est grave et je ne sais pas pour les parlementaires, mais je pense que ça a des conséquences voilà, d'intimider les élus. C'est à mon sens extrêmement grave aussi parce que ça nous empêche, ça nous entrave concrètement dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut du coup aussi porter des propositions pour faire avancer les lois sur les cyberviolences et sur les fake news. Parce que quand des choses comme ça circulent sur Internet et qu'on ne peut pas les faire retirer, qu'on n'a pas les moyens d'arrêter ça, que ça, cette violence se déchaîne sur Internet, je le disais, ça a des conséquences après. Et aujourd'hui, on ne peut pas l'empêcher. Et donc, je rejoins complètement ce que disait Laurence Rossignol tout à l'heure en disant qu'il faut aussi élargir le cadre dans lequel ça se passe. Ben moi, je pense que tous les médias, tout ce qui permet de lutter contre les cyberviolences, contre les fake news, permettra aussi d'asseoir la loi sur l'abolition, parce que les faux rapports, voilà, les propos tels que tu es responsable du VIH, etc., entravent la loi très clairement. Et donc, il faut aussi porter ces combats de lutte contre les cyberviolences et les fake news. D'ailleurs, là, aujourd'hui, les réseaux sociaux relèvent de la liberté de la presse. Mais en tout cas, ce que je suis sûre, c'est que ces campagnes de dégrèvement, c'est tout sauf du journalisme. Mais je m'arrête là. La deuxième chose, c'est le travail idéologique et de relais des pro-prostitutions auprès des élus et d'opposition, de majorité. Pour eux, c'est pas l'enjeu. L'enjeu pour eux, il n'est pas gauche-droite. Et par contre, ils vont faire énormément de travail de relais auprès des élus, et notamment des élus locaux. Enfin, je parle de ce que je vois. Avec, en effet, la terminologie travail du sexe qui revient systématiquement. La projection de films, d'ailleurs des films que vous voyez qui sont passés, au MK2. Donc il y a une production idéologique autour de ça, où ils vont aller chercher les élus locaux et puis aller chercher à faire du plaidoyer et ça de manière quasi incessante. Et donc avec des études des chiffres, des choses comme ça qu'ils vont vous sortir, alors que, donc de l'autre côté, des associations qui, elles, accompagnent les personnes en situation de prostitution, elles ne vont pas avoir le temps, les moyens, elles ne vont pas le faire. Et donc, à chaque fois, ça, c'est extrêmement frappant de voir les pros travail du sexe vont être sur les réseaux sociaux et ne jamais s'arrêter, pour aller chercher les élus locaux, etc. Les autres, au contraire, les associations abolitionnistes vont accompagner les personnes en situation de prostitution sur le terrain, et elles ne vont pas être sur les réseaux sociaux à dire aux élus « Voyez, regardez la situation des personnes, etc. » Donc on est dans un truc qui est complètement déséquilibré, et malheureusement, tout le travail de plaidoyer sur les réseaux sociaux qui est peut-être hors terrain, qui est peut-être hors réalité, etc. Peu importe, c'est ça qui va impacter les élus locaux et conduire donc après à des débats politiques extrêmement déconcertants et des alliances gauche-droite aussi complètement hors des clous, hors des lignes habituelles en politique. Un autre enjeu, je pense, c'est l'instrumentalisation des combats LGBT, et notamment trans. Moi, ça me frappe. Je connais énormément de personnes trans qui ont été en situation de prostitution, qui ne sont pas abolitionnistes, mais qui ne sont pas d'accord aussi avec les violences, avec ce que font un certain nombre d'associations, et donc qui, par contre, ne peuvent pas s'exprimer pour dire leur désaccord. C'est-à-dire que toutes les associations LGBT aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de travail, sont forcées de se positionner sur la question prostitutionnelle comme si c'était une question forcément essentielle pour eux. Ils ont essentialisé la prostitution dans les associations LGBT. Et il y a vraiment une instrumentalisation des discriminations réelles face à l'emploi des personnes LGBT et trans particulièrement, qui sont discriminées. Voilà, il y a toute cette, enfin, toute cette utilisation-là, et il y a un gros enjeu, je pense, à déconstruire et arriver à porter du contradictoire. Et aujourd'hui, il est impossible, impossible d'avoir un discours contradictoire à l'intérieur de ça. J'ai parlé des personnes trans, mais quand sur les applications comme Grindr, qui sont les applications de rencontres gays, LGBT, enfin gays, vous mettez votre nom, prénom et un diamant, ça veut dire que vous vous prostituez. C'est institué, tout le monde le sait. Cette application, elle est utilisée pour de la prostitution. Et si vous allez dessus, comme moi je l'ai fait, c'est absolument impressionnant. C'est une banalisation totale de la prostitution, du chemsex et des violences sexuelles par des applications. Et c'est assez impressionnant à voir ça.
Merci.
Ah, j'ai fini mon temps. Après, j'avais quelques pistes d'offensive, mais je vais du coup m'arrêter là. Juste pour une phrase de conclusion sur, je le disais tout à l'heure, je pense vraiment que l'enjeu autour du discours ultralibéral, de la promotion d'un business de l'exploitation du sexe chez les jeunes, qu'on retrouve comme quelque chose d'extrêmement dominant chez les jeunes, autour de la pornographie aussi. Cet enjeu-là, il est central parce qu'il y a des générations entières qui sont biberonnées au porno depuis les années 2010-2012 et qui, dans le même temps, sont sur les réseaux sociaux et avec une banalisation de la prostitution pour eux.
Merci beaucoup. On voit toute la passion que vous avez pour ça, mais c'est vrai qu'on voudrait pouvoir donner la parole à tout le monde. Et donc, je vais passer la parole maintenant à Téna Bien-Aimée, qui est avec nous en visio. Bonjour.
Bonjour. Alors, on m'entend ?
Oui, on vous entend très bien. Est-ce que, à votre tour, vous êtes donc directrice exécutive de la Coalition internationale contre le trafic d'humains ? Et je voudrais savoir, donc, de votre côté, au niveau mondial, on part d'un bout de la lorgnette complètement à l'autre côté, en quoi consiste votre action ? Et puis, si vous pouvez donner votre message.
Oui, merci. Donc, bonjour de New York et merci à la CLI de m'avoir invitée à participer à cette journée importante. Et je suis vraiment désolée de ne pas être à Paris avec vous. Donc, pendant les 10 minutes qui m'ont été accordées, on m'a demandé de donner un bref aperçu de la situation concernant la lutte pour l'abolition du système prostitutionnel dans le monde et de répondre à 3 questions, dont quelle est votre action et en quoi consiste-t-elle? Quel est l'état des lieux des offensives dans le monde contre l'abolition de la prostitution? Et quel message souhaiterais-je faire passer à la France? Donc, pour la première question sur l'action, je dirais tout d'abord que j'ai consacré ma vie à lutter pour l'égalité des femmes et des filles en me concentrant sur le plaidoyer juridique et la mobilisation des coalitions internationales à but de faire pression sur les gouvernements afin qu'ils reconnaissent que les femmes et les filles sont des êtres humains à part entière, dignes de l'être. C'est une tâche difficile, comme nous le savons. Surtout lorsqu'il s'agit de s'attaquer à toutes les formes de pratiques culturelles néfastes, dont mutilation génitale féminine, mariage précoce et forcé, prostitution, la traite, la pornographie et la violence sexuelle sous toutes ses formes. Chaque jour, nous appelons les gouvernements, qui sont aussi des États membres des Nations Unies, à ne pas considérer la prostitution comme une exception à la violence et à la discrimination à l'égard des femmes et des filles. Cette question est aussi une à laquelle j'ai réfléchi hier soir lors d'un événement auquel j'ai assisté et au cours duquel des directeurs d'associations et de bailleurs de fonds très importants qui font du gros travail grandiose, c'est-à-dire se concentrant sur la lutte contre la pauvreté, la faim, le racisme et la crise écologique. Et dans ces contextes, on me demande des fois pourquoi me suis-je tant concentrée pendant si longtemps sur une problématique qui semble être une question marginale, même banale, qui n'affecte pas grand monde, vraiment un petit problème gênant. Et une des réponses que je pense beaucoup d'entre nous abolitionnistes pourraient donner est que nous comprenons que l'histoire de la prostitution est l'histoire du patriarcat. Et que tant que le patriarcat et la prostitution existent, les femmes et les filles ne seront jamais égales et la démocratie absolue ne sera jamais atteinte. Au-delà du plaidoyer juridique, notre travail collectif consiste à mobiliser le public, les médias, les universités et nos institutions culturelles qui créent tous malheureusement des récits positifs ou bénins sur la prostitution. Et nous essayons de les faire comprendre que la prostitution doit être considérée comme une pratique culturelle néfaste qui détruit des vies et l'espoir d'égalité. Mais à l'heure actuelle, presque partout dans le monde, on part du principe que les hommes ne peuvent pas s'abstenir d'avoir accès libre au corps des femmes et que l'État doit donc organiser le système prostituteur et appeler cela du travail, tout simplement. Voilà donc l'état des lieux maintenant dans la majorité du monde. Un tableau très sombre pour les femmes et les filles. Peu d'États pour être comptés sont désireux de rentabiliser les corps des femmes comme centre de profit qui effectivement récolte des milliards de dollars, d'euros pour des industries commerciales d'exploitation, y compris la prostitution, la pornographie, le tourisme sexuel, en passant par la maternité de substitution, qui en fait est la prostitution des organes reproducteurs des femmes. Et donc, voici quelques exemples récents et alarmants. Deux États australiens, Victoria et Queensland, ont respectivement dépénalisé la prostitution en 2022 et 2023 pour remédier à l'échec de leur légalisation. Avec la dépénalisation, ces États perdent leur capacité de quantifier l'industrie du sexe, qu'il s'agisse du nombre d'établissements sexuels commerciaux que l'État héberge ou le nombre de femmes achetées et vendues. Nous ne connaîtrons pas ces chiffres. La même chose s'est produite en Belgique en 2021. En Afrique du Sud, le ministre de la Justice a proposé un projet de loi en décembre 2022 qui dépénaliserait le système prostituteur en Afrique du Sud et contre lequel nous nous mobilisons maintenant pour soutenir les efforts des survivantes abolitionnistes qui s'opposent à ce projet de loi. Il existe également une proposition en Thaïlande visant à faire la même chose. Donc la liste est longue, de l'Asie à l'Afrique à l'Amérique latine, mais il est clair que la prostitution des femmes avec impunité est un virus mondial. Et ceci dans le constat de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, selon laquelle les filles constituent le groupe de victimes de la traite qui connaît la croissance la plus rapide, soit 23% contre 7% pour les garçons. Et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a constaté une augmentation de 600% de la demande en ligne d'hommes, de clients qui désiraient acheter des femmes ukrainiennes dans la prostitution. Et finalement, quel message souhaiterais-je faire passer à la France aujourd'hui? Tout d'abord, nous sommes heureuses de nous joindre à vous dans nos combats communs et aussi comment nous, en tant que petit mouvement abolitionniste mondial aux ressources financières limitées, où on est constamment agressé, comment pouvons-nous nous attaquer à ce qui semble être une tâche insurmontable? Un de ces moyens consiste à faire la lumière sur les forces financières et politiques qui poussent pour la dépénalisation du système prostitutionnel. Chaque fois que nous le pouvons, il est important de noter qu'un puissant lobby de proxénètes, d'acheteurs de sexe et de pornographes est souvent derrière ces efforts de dépénalisation du proxénétisme. L'ONU SIDA, par exemple, dans son appel à la dépénalisation du proxénétisme comme moyen de combattre le VIH-SIDA, a été inspiré par des personnes liées au commerce du sexe, notamment une certaine Alejandra Gil, qui maintenant purge une peine de 15 ans dans une prison mexicaine pour traite à fin d'exploitation sexuelle. La loi de la dépénalisation dans l'État de Victoria en Australie a été adoptée de justesse et c'est l'aboutissement des efforts de la députée Fiona Patten qui avait lancé la Sex Party, un parti pro-prostitution, et dont le partenaire est le plus grand pornographe d'Australie. Et ici, aux États-Unis, les efforts visant à dépénaliser la prostitution dans une demi-douzaine d'États sont financés en partie par un acheteur de sexe, un client, Robert Campia, qui s'est lui-même identifié comme tel et qui a été accusé à plusieurs reprises de harcèlement et d'abus sexuels. Donc, voici quelques exemples, mais nous savons par expérience que lorsque le public comprend ce qu'est et ce que fait le lobby pro-prostitution, des changements positifs peuvent se produire. Après, Connue Femme a distribué un document non officiel, ont-elles dit, en 2013, appelant à la dépénalisation du système prostituteur. Pour imiter d'autres agences de l'ONU, il nous a fallu 6 ans pour obtenir que l'ONU Femmes déclare officiellement sa neutralité sur la question de la prostitution. Nous aurions espéré, bien sûr, que l'agence onusienne respecte les principes des droits humains et les conventions internationales, mais nous avons quand même déclaré cette neutralité comme une victoire. Souligner le travail du gouvernement qui s'efforce de mettre fin à la demande pour la prostitution est aussi important. En 1999, la Suède a été le premier pays, comme vous le savez, à promulguer une loi sur les acheteurs de sexe et elle est restée seule pendant 10 ans. Aujourd'hui, 7 pays ont adopté de telles lois abolitionnistes, la France ayant la loi la plus complète au monde. Et nous qui vivons aux États-Unis, où un grand nombre de nos parlementaires, représentants politiques et fonctionnaires universitaires pratiquement vénèrent le commerce du sexe, nous considérons la France comme une source d'inspiration. Et nous diffusons largement chaque statistique que vous recueillez depuis votre loi de 2016 pour prouver à nos propres gouvernements que le chemin vers l'abolition de la prostitution est possible. Et nous apprécions également beaucoup votre collaboration avec la Suède pour encourager d'autres États à adopter des lois qui pénalisent la demande de la prostitution. Et finalement, il faut soutenir le mouvement des survivantes, que je sais que la France fait, qui est une force croissante relativement nouvelle et mondiale, composée de femmes brillantes, qui joue un rôle clé dans l'évolution radicale de la société et de la législation. En conclusion, j'aime me rappeler que notre lutte pour que les États reconnaissent les femmes et les filles comme des êtres humains, dans la loi et dans la pratique, dure depuis des millénaires et nous ne sommes qu'une vague de plus dans la longue histoire du mouvement féministe qui combat une forme ou une autre de féminicide. Mais comme nos aïeuls, avant nous, nous vaincrons. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre message. Ça encourage la France aussi à continuer dans cette lutte. Je passe la parole maintenant à Madame Claire Kidet, présidente du Mouvement d'Uni. Alors, vous, votre sentiment, votre évolution, pouvez-vous nous parler de tout ça?
Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a déjà tellement de choses qui ont été dites, et notamment sur la loi de 2016, sur la position abolitionniste de la France. Je ne vais pas trop y revenir. Je vais choisir peut-être de prendre un angle qui est finalement, qui correspond bien à nos activités au Mouvement d'Uni, c'est-à-dire que nous sommes avant tout une association de terrain qui œuvrons au quotidien auprès des personnes qui connaissent la violence prostitutionnelle, auprès des victimes. Et donc, peut-être justement replacer un petit peu le débat de manière concrète sur ce travail de terrain. Au Mouvement d'Uni, nous accueillons, nous accompagnons des personnes en situation de prostitution. Et puis nous sommes agréés dans un certain nombre de départements pour porter justement les dispositifs de la loi de 2016 et notamment les parcours de sortie de prostitution avec d'autres associations, dont certaines présentes dans la salle, comme l'Amicale d'Uni, comme les CIDFF. Et effectivement, nous pouvons attester, comme ça a été rappelé dans les chiffres précédents, que sur l'ensemble des personnes qui ont pu avoir accès à ces parcours de sortie, on peut constater qu'une très grande majorité d'entre elles ont accès à un emploi au terme des 2 ans de ces parcours. Ce sont souvent des parcours réussis. Aujourd'hui, on est à pas très loin de 1300 parcours de sortie de prostitution mis en place depuis que la loi a été adoptée en France. C'est extraordinaire par rapport à ce qui ne pouvait pas se faire avant, mais c'est très peu. On devrait être à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, ce qui, évidemment, pour nous, en tant qu'association de terrain, a péché et continue de pécher, c'est bien la mise en œuvre de la loi et non pas sa philosophie, ni tous les dispositifs qu'elle a prévus. Évidemment, elle a été votée en 2016, on a changé de gouvernement en 2017. Sans doute, les choses auraient-elles été différentes si le même gouvernement qui avait fait voter cette loi avait pu être en place pour la porter. Et c'est bien ça qui a manqué, un portage politique fort au plus haut niveau de l'État. Certes, la loi n'a pas été remise en cause, c'est déjà ça, mais on a bien vu qu'il n'y avait pas une volonté de l'appliquer de manière énergique. On a vu que les commissions départementales de lutte contre le système prostitutionnel, qui donc étaient prévues dans chaque département pour suivre et faire un état des lieux de l'état de la prostitution dans les départements et pour également valider les parcours de sortie présentés par des associations agréées, ont tardé à se mettre en place. Ce n'est que très récemment que presque tous les départements aujourd'hui sont couverts. Mais au-delà de ça, lorsqu'elles se sont mises en place, elles ne se sont pas pour autant réunies de manière régulière. Et donc, ça a évidemment beaucoup freiné, notamment l'accès pour les personnes qui le souhaitaient de pouvoir bénéficier d'un parcours de sortie de prostitution. Et puis, nous, ce que nous constatons dans les commissions, c'est aussi une hétérogénéité absolument ahurissante des critères pour l'attribution des parcours de sortie, notamment. Et très, très loin de l'esprit de la loi de 2016. Ces parcours de sortie accordent tout de même des possibilités et des droits qui, jusque-là, étaient inédits pour les personnes en situation de prostitution. On rappelle, ça a déjà été dit, que dès 2016, dès le vote de la loi, plus aucune personne incriminée pour délit de racolage, puisque c'était encore le cas jusque-là, ce qui était pour nous une injustice absolument extraordinaire. La prostitution, c'était quand même la seule forme de violence envers les femmes dont les auteurs restaient impunis, alors que les victimes, elles, l'étaient. Donc, pour nous, ça a été vraiment enfin l'aboutissement de nos luttes de dizaines d'années, de faire reconnaître que c'était impossible de continuer à pénaliser les victimes. Donc, abrogation du délit de racolage, mis en œuvre tout de suite, mais au-delà, les parcours de sortie prévoient notamment pour les personnes étrangères en situation illégale de pouvoir bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour sans condition de dénonciation. Parce qu'avant 2016, certes, les personnes étrangères victimes de traite, de prostitution, qui dénonçaient leur réseau, pouvaient bénéficier d'une autorisation de séjour sur le territoire français. Mais comment est-ce qu'on peut dénoncer son réseau quand on est sous emprise, quand on est venu d'un pays lointain où les réseaux qui sont, les têtes de réseau sont sur place, vont exercer des représailles sur la famille qui est restée là-bas? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, bien sûr, elle ne dénonçait pas. Et donc, bien sûr, elle n'avait pas accès à ces dispositifs. La loi de 2016 permet justement de pouvoir accéder à cette autorisation provisoire de séjour, donc il peut être renouvelable jusqu'à 2 ans, sans condition de dénonciation. Et ça, c'est extrêmement important. Elle permet une aide financière très minime, mais une aide financière tout de même, pour les personnes qui n'ont aucun minima sociaux, et c'est le cas des personnes étrangères lorsqu'elles sont en situation irrégulière. Donc ça nous a donné des outils à nous en tant qu'association de terrain pour permettre de mieux répondre quand même aux situations réelles. Mais dans la réalité, d'une commission à une autre, on va nous dire, Ah ben non, cette personne, on va pas lui, on va pas valider son entrée dans un parcours parce qu'elle est en situation illégale. Ah mais justement, c'est ça que prévoit la loi. C'est de, qu'elle puisse en profiter et que ça fasse même tomber éventuellement des OQTF. Mais voilà, dans certains départements, ça va être, la politique, c'est pas de personnes étrangères. D'accord ? Alors que c'était fait pour. Dans un autre département, on va nous dire, puisque les personnes s'engagent à quitter la prostitution lorsqu'elles rentrent dans un parcours de sortie, donc c'est un engagement pour elles. Au moment où elles le font, elles n'ont aucun moyen de subsistance. Il faut quand même bien voir cette réalité-là. J'accepte d'arrêter la prostitution pour bénéficier d'un parcours de sortie et je vis avec rien en attendant, mais rien du tout. Donc, c'est quand même très engageant. Et là, on nous dit dans un département, mais madame s'est engagée auprès de vous à arrêter la prostitution, c'était il y a un mois. C'est trop court pour qu'on puisse vraiment être sûr du fait qu'elle va tenir. Alors donc, on ne va pas valider son parcours. Puis dans le département d'à côté, on vous dit, mais madame a arrêté la prostitution il y a 8 mois. Bah, elle n'a plus besoin d'un parcours de sortie alors, puisque ça fait déjà 8 mois. Ça fait 8 mois qu'elle essaie de survivre sans aucun moyen de subsistance, en espérant pouvoir accéder à un parcours. Ces quelques exemples, je pourrais vous en donner tellement et tellement. Donc vraiment, ce n'est pas la loi qui est en cause, mais bien son application, par manque de directives fortes émanant du plus haut niveau de l'État, pour dire la loi c'est ça, l'esprit de la loi c'est ça, il faut l'appliquer de cette manière-là et non pas l'interpréter en fonction de sa sensibilité sur la question ou sur le sujet, pour ne pas dire de sa sensibilité politique ou peu importe. Donc c'est vraiment la mise en œuvre qui laisse à désirer et je n'aborde pas les autres éléments de la loi, notamment l'interdiction d'achat d'actes sexuels, qui a été mis en place dans quelques départements en France et où il y a eu effectivement un certain nombre d'amendes. Je rappelle, parce que c'est bien de l'avoir toujours en tête, quand les personnes prostituées étaient pénalisées pour délit de racolage, l'amende était de 3 750 euros. Interdiction d'achat d'actes sexuels, l'amende maximum 1 500 euros. Quand même pas, voilà, c'est bien de le redire. Donc cette loi, malgré ses défauts de mise en œuvre et puis sans doute certaines améliorations qu'il faudra apporter, elle a quand même eu ce mérite et cette vertu de rappeler et de remettre la France en conformité avec ses positions abolitionnistes, puisque la France était abolitionniste bien avant 2016, mais c'était pas, ses politiques publiques n'étaient pas cohérentes par rapport à cette position-là. Donc ça rappelle la position abolitionniste de la France et ça met en conformité les politiques publiques. Et malgré finalement toutes ces avancées qui visent directement les personnes en situation de prostitution. Évidemment, cette loi a déclenché les plus vives critiques et des réactions et des offensives qui n'avaient sans doute jamais été vues jusque-là de la part des lobbies, évidemment, pro-prostitution. Ça a été bien dit, ça a été bien présenté, donc je ne vais pas y revenir, mais je voudrais juste dire, parce que ça peut-être, ça n'a pas été dit, c'est que si ces attaques que nous prenons, si la violence que nous subissons, je rappelle que dans les manifestations, par exemple le 8 mars, les abolitionnistes sont brutalisés, il y a des survivantes qui ont été frappées, enfin, comme ça a été dit par Hélène notamment, être abolitionniste, ça devient presque un gros mot. On n'ose plus le dire et on est la cible de toutes les attaques. Donc vraiment une violence à un niveau jamais vu. En tant qu'association, à titre individuel, c'est extrêmement difficile et pénible et violent. En tant qu'association, je dirais, tant pis, c'est le lot aussi d'associations qui se mouillent et qui militent et voilà. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces attaques, cette violence-là et ce militantisme pro-travail du sexe impactent directement les victimes. les personnes en situation de prostitution en sont les victimes collatérales, puisqu'on ne peut pas dire qu'ils vont directement les viser, mais de manière assez importante. Et juste pour vous donner une petite idée et quelques exemples, c'est d'abord un discours, ce discours « travail du sexe », qui leur enfonce encore plus la tête sous l'eau, qui les enferme encore plus dans ce système de violence prostitutionnelle et qui les réduit au silence. Quand on est enfermé dans cette violence prostitutionnelle et que tout ce qu'on entend dans les médias, dans les journaux, tout ce qu'on nous donne à voir, c'est que, après tout, c'est un travail qu'il faut revendiquer. Mais comment est-ce qu'on peut le vivre, ça? Comment est-ce qu'on peut recevoir ça? C'est-à-dire que si vous êtes quotidiennement en train de subir et de vivre un enfer dans la prostitution, mais qu'on essaie de vous démontrer partout que mais non, c'est très très bien, c'est un choix, c'est un travail, c'est absolument terrible. Et ça, évidemment, rend encore plus difficile la possibilité de voir finalement la lumière au bout du tunnel. Et j'avais quand même envie de vous lire, je ne le lirai pas en entier parce que ça serait trop long, mais un tout petit extrait de ce que nous a dit une personne que nous accompagnons depuis un certain temps et qui nous disait: les discours que j'entends, les discussions en famille, entre amis, j'ai envie de hurler, de leur dire « mais vous savez de quoi vous parlez ?» Je voudrais leur crier « moi, j'y étais ». Mais on n'a pas le droit à la parole, en fait. Personne ne veut que ça se sache, et moi, j'en peux plus de ne pas pouvoir le dire. Il y a des trucs que je ne regarde plus à la télé. Les émissions sur la prostitution, je casserai le téléviseur. Partout, c'est le déni. On doit se taire, comme avant, les victimes de viols et d'inceste, ne rien dire, supporter. C'est ça, en fait, aussi, la conséquence de ce discours qui est tellement présent dans nos espaces médiatiques et partout, qui, la conséquence directe sur les personnes en situation de prostitution, et je voulais vraiment qu'on ne l'oublie pas. Je voudrais dire également que les critiques qui sont proférées envers les associations. On est des putophobes, on est évidemment des transphobes parce qu'on est abolitionniste, mais ça empêche les personnes de venir s'adresser à des associations qui pourraient venir les aider. Et nous avons eu cette expérience, nous avons pu le constater bien des fois, notamment avec des personnes trans qui sont venues nous voir en nous disant: je viens en désespoir de cause parce que ça fait 2 ans que je cherche de l'aide, je suis désespérée, j'en trouve pas, je serais jamais venue vous voir parce que vous êtes une association transphobe, donc j'ai pas ma place chez vous. Mais j'ai tellement été frappée à des portes où on m'a rien apporté que du coup je sais plus vers qui me tourner et je viens vous voir quand même. Et là, ça veut dire qu'on a des personnes qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas vers qui se tourner et qui ne vont pas aller voir des associations qui pourraient les aider parce qu'elles sont concrètement sur l'action, sur le terrain, sur l'accompagnement, parce qu'elles entendent et que c'est martelé que ces associations-là sont transphobes ou putophobes, donc on ne va pas aller les voir. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que ça évidemment des effets dévastateurs auprès des jeunes, puisque ces discours qui normalisent, qui banalisent terriblement, font que dans l'esprit d'un certain nombre de jeunes, eh bien, ça commence à être quelque chose qui, pourquoi pas, pourrait être envisageable. Nous intervenons beaucoup en prévention. Il y a 20 ans, quand dans une classe, nous posions la question: si un jour tu étais dans la galère, pas d'argent, etc., est-ce que tu pourrais envisager d'avoir recours à la prostitution? On avait des réponses qui étaient unanimes, des hurlements: mais jamais de la vie, mais non, pas du tout, etc. Nous posons la même question aujourd'hui, on n'a plus du tout les mêmes réponses. Bah oui, pourquoi pas? Bah oui, de toute façon, c'est un travail. Hein. Ils le disent partout à la télé. Donc voilà, impact évidemment très dommageable chez les jeunes. Et en ce qui concerne la prostitution des mineurs, je voudrais aussi dire que, puisque Laurence Rossignol l'a évoqué tout à l'heure, certes, il y a sans doute plus un consensus sur la prostitution des mineurs, mais aujourd'hui, le STRAS est quand même en train de pousser un discours pour parler du travail du sexe des mineurs. Donc, il faut vraiment être très, faire très attention et être très vigilant. Et puis voilà, je voudrais, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas prendre trop de temps. Je voudrais quand même terminer sur un point de vigilance aussi, qu'il faut absolument que nous ayons, qui est l'offensive, qui est, voilà, on les sort par la porte, mais ils rentrent par la fenêtre, l'offensive concernant l'assistanat sexuel en direction des personnes handicapées. En 2012, le Conseil consultatif national d'éthique avait été saisi de cette question pour rendre un avis. Nous avions été auditionnés avec d'autres associations, et notamment Femmes pour le dire, Femmes pour agir, avec qui on a travaillé sur ces sujets et on continue d'ailleurs. Et le CCNE avait rendu un avis défavorable qui était clair. Et puis, quelques années plus tard, eh bien, au prétexte que la société a évolué, Madame Cluzel, qui était alors ministre donc déléguée au handicap, a décidé de faire une nouvelle saisine auprès du CCNE. Et là, eh bien, les résultats étaient déjà beaucoup plus mitigés. Oui, quand même, il y a des principes éthiques auxquels il ne faut pas trop déroger, mais pourquoi pas envisager des expérimentations, etc. Je ne vous donne pas tous les détails, mais en tout cas, là, aujourd'hui, il n'en fallait pas plus pour que tous ceux qui militent pour que ça puisse se faire s'en emparent et essaient de lancer, justement, de faire avancer cette idée. On a vraiment la chance d'avoir une ministre des droits des femmes qui soutient et qui est volontariste, notamment pour donner un nouvel élan à la loi de 2016, qui, je pense, est vigilante aussi sur cette question-là de l'assistanat sexuel. Je crois qu'il ne faut vraiment pas s'endormir sur cette question et y faire très attention. Je vais m'arrêter
Merci
là.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. On prendra quand même quelques minutes pour réagir à tout ça parce que c'est vraiment très intéressant. Et je voudrais passer la parole à Madame Alexia Farrara, responsable de plaidoyer du lobby européen des femmes. Et donc, à vous la parole.
Merci beaucoup et merci beaucoup aux organisatrices pour cette journée de mobilisation et pour cette opportunité de partager un petit peu ce qui se passe au niveau européen parce qu'on n'en parle pas forcément d'un point de vue national. Comme on vient de le dire, j'ai le plaisir aujourd'hui de représenter le lobby européen des femmes, qui est la plus grande organisation parapluie lorsqu'il s'agit de la défense des droits des femmes au niveau européen. Nous comptons parmi nos membres 31 coordinations nationales et 17 coordinations européennes, ce qui englobe à peu près 2000 organisations, dont la coordination française pour le lobby européen des femmes, qui organise cette journée remarquable. Nous, sans surprise, nous sommes également une organisation abolitionniste. Et en 2012, avec notamment la fondation SEL et le mouvement d'Uni, donc sous une forte impulsion et solidarité française, nous avons créé une sorte de plateforme européenne qui regroupe les organisations abolitionnistes pour organiser des actions ensemble, pour coordonner des actions, que ce soit des lettres envoyées aux responsables des politiques européennes, des rencontres avec les membres du Parlement européen, des actions, etc., diverses. Et nous sommes également en contact régulier avec une dizaine de membres du Parlement européen qui sont vraiment des soutiens dans la cause abolitionniste et avec lesquels nous échangeons pour inclure une perspective abolitionniste dans les textes législatifs discutés au niveau européen afin de promouvoir donc le modèle nordique, comme on l'appelle ici. Mais nous, on a plutôt tendance à appeler ça le modèle de l'égalité parce que ça peut prêter à confusion puisque certains pays nordiques ne sont pas abolitionniste. En ce qui concerne les difficultés rencontrées, je ne vais pas répéter ce qui a été déjà partagé par les précédentes interlocutrices. Nous, ce qu'on peut observer, effectivement, c'est que alors que sous le précédent mandat du Parlement européen, on avait un soutien lorsqu'il s'agissait de la cause abolitionniste, notamment avec un rapport d'initiative Honeyball en 2014, on voit ces dernières années et encore plus ces derniers mois une forte mobilisation des organisations et lobbies qui cherchent vraiment à définir la prostitution comme le travail du sexe et à vraiment imposer cette narrative au niveau européen. On l'observe notamment avec la constitution d'une sorte de plateforme qui ressemble à la nôtre, donc le Brussels Call qui est abolitionniste, mais pour la narrative inverse, la narrative du travail du sexe, puisque il y a une plateforme qui s'appelle le European Sex Workers Alliance, donc l'Alliance des travailleurs du sexe, l'Alliance européenne des travailleurs du sexe, si on traduit. Donc il y a encore une fois et une sorte d'équivalent de notre plateforme à nous, mais qui prône une narrative inverse et qui malheureusement trouve des alliés au Parlement européen. Et dans les alliés les plus visibles, ce sont l'équivalent des Verts et de Renaissance, donc Renew and the Greens. Donc ça c'est pour le niveau politique au niveau du Parlement européen, et puis il y a effectivement, ça a été évoqué il me semble par Madame Rossignol, des alliés aussi dans les organisations qui ont une certaine réputation comme Amnesty International ou Médecins du Monde. Donc ça évidemment c'est ça les aide à avoir plus de visibilité. On voit un mouvement qui devient de plus en plus structuré, de plus en plus organisé, visible. Et je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais qui est extrêmement visible sur les réseaux sociaux, en ligne. Et nous aussi, on a observé, lorsqu'on publie, que ce soit au niveau du lobby européen, des posts abolitionnistes, ou moi-même à titre personnel, automatiquement, réaction immédiate de comptes pro-travail du sexe, avec au mieux des critiques et au pire des insultes. Et on voit vraiment qu'il y a une volonté de nous pousser au silence, de ne plus défendre la perspective abolitionniste. Et on a observé notamment un compte qui est très très organisé, en fait, qui suit sur Twitter tous les comptes abolitionnistes et qui, à chaque poste, va automatiquement commencer à lancer une horde de commentaires. Et comme je le disais, au mieux avec des critiques sur le modèle de l'égalité, ou au pire, avec, ça va jusqu'à des insultes. Pour parler de ce qui se passe en ce moment et des fenêtres d'opportunité au niveau européen, il y a deux textes principaux qui sont sur la table en ce moment, voire trois si on parle de la mise à jour de la directive sur le trafic d'êtres humains, mais ça commence doucement. On a la directive visant à combattre les violences faites aux femmes ainsi que la violence domestique, dont la base légale, une des bases légales est l'exploitation sexuelle. Et on a également un rapport d'initiative sur la prostitution et ses impacts transfrontaliers et son impact sur les droits des femmes. Donc dans le cadre de la directive, très concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé, avec l'aide de toutes les organisations qui sont présentes dans la plateforme du Brussels Call, nous sommes organisés pour envoyer des amendements à caractère abolitionniste aux parlementaires européens, pour être sûr qu'on puisse retrouver cela dans la directive. Malheureusement, on a eu la nouvelle cette semaine. On sait que des négociations ont eu lieu cette semaine, mardi. Et alors que nous avions demandé notamment inclure la criminalisation de l'achat d'actes sexuels et la criminalisation du proxénétisme, on sait, notamment à cause des députés Renaissance et Verts au niveau européen, que ces amendements ne seront pas présentés finalement dans le texte final. Donc c'est une déception énorme, malgré le travail colossal qui a été fait par les organisations. Et les seuls, pour l'instant, amendements qui resteraient dans le texte seraient, à caractère abolitionniste du moins, seraient la nécessité de garder les programmes de sortie. Et aussi, un combat qui reste important, la question du vocabulaire, parce que dans le premier jet du texte qui avait été proposé par la Commission européenne, malheureusement, on avait le terme « travailleur du sexe »,« travailleuse du sexe », ce qui est un précédent, parce qu'en fait, dans les textes européens et des Nations Unies, normalement, il n'y avait pas ce vocabulaire qui était utilisé. Donc, nous, ce qu'on a demandé, ce qu'on a proposé comme amendement, c'était de supprimer ça et de revenir sur un vocabulaire qui est dans les textes européens et internationaux, qui est de celui de femmes en situation de prostitution. Et jusqu'à présent, on touche du bois, c'est quelque chose qui devrait rester dans les amendements proposés dans le texte. Donc, nous sommes en veille active par rapport à cette directive, également par rapport au rapport d'initiative que j'ai évoqué, même si, effectivement, un rapport d'initiative, quand on parle de rapport d'initiative au Parlement européen, ça n'a pas la même portée qu'une directive. Au niveau du droit, c'est plus symbolique. Mais ça reste tout de même très important parce que, justement, c'est ce qui va déterminer la position du Parlement européen sur un sujet, et c'est cette portée symbolique a des conséquences justement pour les textes qui ont un aspect contraignant. Et voilà, pour terminer, pour conclure sur le message à transmettre et peut-être sur ce qui est possible de faire, que l'on soit une organisation ou un citoyen, une citoyenne active, tout simplement. N'hésitez pas à vous mobiliser. Vous pouvez trouver l'adresse email des députés européens sur le site du Parlement. C'est très facile d'accès. Et vous pouvez donc leur écrire à ce sujet et les interpeller pour les encourager à adopter une position abolitionniste et à défendre la position abolitionniste dans les textes discutés. Ce genre de mobilisation n'est jamais trop parce qu'effectivement, malheureusement, nous sommes face à des députés qui ont peur effectivement d'afficher publiquement leur conviction abolitionniste parce qu'elles ont peur d'être attaquées publiquement, parce qu'effectivement on se retrouve face à ces tentatives d'intimidation et ça reste compliqué pour certains d'entre eux. Et je voulais juste terminer en disant que j'ai rapporté pas mal de brochures sur nos travaux et notamment une brochure qui reprend, alors celle-là elle est en anglais, j'avais plus d'exemplaires en français, sur les mythes sur la prostitution. Et ça, c'est très intéressant de parcourir tout cela, et justement parce qu'on revient sur tout ce qui est dit sur le fait que la prostitution serait le plus vieux métier du monde, etc. Et en fait, on dézingue tous ces stéréotypes et tous ces clichés en apportant en fait les véritables réponses et la conviction abolitionniste. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes vos interventions qui étaient extrêmement passionnées, extrêmement riches. Merci pour votre engagement, parce que je crois qu'on découvre aussi parfois des choses, même si le public est ici sûrement très concerné et impliqué. Merci à vous toutes. Et puis, s'il y a des questions, je crois qu'on faudra plutôt les garder pour les donner de manière plus privée, parce qu'on n'a vraiment pas le temps, on va abîmer, on va pas pouvoir s'étendre sur la deuxième table ronde. Donc, je crois qu'il vaut mieux pas faire de questions. On les transmettra par écrit ou bien. Voilà. Merci beaucoup.